On vient d'écouter Johnny Cash, mis en musique par Acid Paoli, Oppenheimer Analysis Devil's Dance, et on a terminé avec Malik Judy, le titre est Sous Garantie, Radio Canu 102.2.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, là.
Ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, ta radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir.
Vous êtes bien sur la radio Canu, pardon, la plus rebelle de toutes les radios, c'est le Canu Info du lundi 21 octobre 2019. Et aujourd'hui encore, cette semaine encore, à l'international du gros gros lourd, beaucoup de mouvements, beaucoup de révoltes. On y reviendra donc au Chili, au Liban et à Barcelone, en Catalogne. Au national, on reviendra sur ce fameux droit de retrait utilisé par les cheminots à la SNCF et tant décrié par les médias et le gouvernement. Et on finira le national par la poursuite d'un homme par l'État pour avoir dénoncé l'islamophobie. Et au local, nous aurons deux petits points, pas des moindres, une attaque fasciste au local de Solidaire hier et un joyeux anniversaire dont on vous invite à attendre, enfin joyeux, pas si joyeux que ça, mais un anniversaire d'une chose qui s'est passée à Lyon, d'un événement il y a quelques années, en 2010. Et on commence donc tout de suite à l'international par le mouvement au Chili.
Ah oui, au Chili, nous sommes en guerre, déclarait le président Piñera dimanche soir en s'appropriant la déclaration des hostilités comme si c'est lui qui avait commencé le rapport de force. Depuis vendredi 18 octobre, les étudiants, les précaires et les lycéens défient effectivement le pouvoir autoritaire en place. Tout ça commence par la protestation contre une hausse de 800 à 830 pesos du prix du ticket de métro à Santiago. Alors il faut savoir qu'à Santiago c'est particulier, on s'adapte aux injonctions de flexibilité du marché puisque le prix du ticket de métro varie en fonction de l'heure du jour et de l'heure de pointe. Bon, dans un pays où le SMIC est à moins de 300 euros par mois, c'est pas rien. Un petit jeu de mots du ministre de l'économie face aux premières heures de la révolte, Juan Andrés Fontaine, qui, fort de l'arrogance commune aux puissants, déclare que les usagers n'avaient qu'à se lever encore plus tôt le matin afin de profiter de tarifs moins élevés. Bon, vendredi, c'est l'incendie social, appel à la fraude massif, des rassemblements spontanés dans les rues, de plus en plus répandus, surtout à Santiago, au rythme de Évasion IA, fraude maintenant. On a plus de 70 stations qui partent en cendres, mais aussi plus d'une vingtaine de bus de la Santiago Line. L'incendie aussi symbolique du monument pour les carabiniers et aussi la mise à feu du siège de la compagnie d'électricité et de gaz Enal, puisque le gaz est aussi privatisé. Bon, l'attaque d'un métro, c'est pas rien, hein. Ça cible évidemment une mobilité urbaine qui est absolument importante, hein. En plus, c'est le plus grand réseau de métro d'Amérique latine. C'est une manière radicale, hein, pour la population de se réaffirmer un droit à la ville, mais c'est aussi une manière d'entraver la production de valeur dans l'espace social urbain. Les revendications des manifestants se sont rapidement élargies à d'autres sujets, hein, sur les inégalités sociales, la contestation du modèle économique dans un pays où l'accès à la santé est privatisé, mais aussi l'accès à l'éducation, l'accès aux énergies. Bref, toute cette réponse sociale est évidemment une réponse contre la précarisation des vies depuis plusieurs années. En réaction, vendredi soir, déclaration de l'état d'urgence, des patrouilles militaires qui viennent sillonner et quadriller les rues pour la première fois. On voit ça pour la première fois depuis la fin de la dictature, ça rappelle des mauvais souvenirs. Samedi soir, extinction des émeutes dans d'autres villes, à Santiago, on l'a dit, mais aussi à Valparaíso, à Concepción. Des concerts de casseroles qui continuent jusqu'à ce que le gouvernement déclare un couvre-feu dans plusieurs villes et le déploiement supplémentaire de quelques 9500 policiers et militaires. Et on voit se multiplier saccages, sabotages, surtout dans les métros et des affrontements. La répression devient sauvage. Premier tir à balles réelles, on est maintenant à plus de 8 morts et à 1462 interpellations, ce qui est absolument énorme. Donc ouais.
Juste, je me permets, j'ai vu là tout à l'heure un nouveau bilan à 10 morts.
À 10 morts, et ben, ça fait que augmenter. Et c'est ça, tout ça pour dire que le Chili, qui était soi-disant parangon de la stabilité sociale et économique, était en réalité le laboratoire des politiques néolibérales là, depuis 40 ans, depuis la dictature, ils en payent enfin le prix. C'est un des pays en réalité un des plus inégalitaires au monde, le plus avancé sur la voie néolibérale. Ça s'inscrit évidemment dans un historique de lutte. Il y avait le mouvement des grèves des femmes en 2018, mais aussi des mouvements étudiants très forts contre la marchandisation de l'éducation, d'autres mouvements plus ouvriers contre l'extraction du cuivre à Calama. Il y avait d'autres mouvements sur le maintien du prix du gaz à Malagan, et aussi évidemment toutes les luttes indigènes des Indiens Mapuche dans le sud. Bon, bref, il s'agit peut-être enfin pour les gens dans la rue d'en finir avec l'ère Pinochet qui n'en cessait de ne pas finir, justement. Signe autoritaire qui était toujours en place, à commencer par la Constitution, antidémocratique par excellence, qui est en vigueur depuis 1980, qui était tolérée par la dictature, mais aussi, évidemment, une privatisation généralisée du système des retraites, de l'eau, etc. Des signes aussi d'autorité qu'on voyait dans les médias, puisque les deux seuls médias qui étaient tolérés sous la dictature s'étaient constitués en groupes qui détiennent quasiment tous les médias chiliens aujourd'hui. Bon bref, il faut dire que la fabrique du consentement que veut tant le pouvoir ici se fissure, elle n'est pas suffisante pour obtenir l'adhésion des classes populaires. Et on a déjà des appels à la grève générale pour élargir le mouvement et pour faire vaciller pour de bon l'État chilien qui jouait finalement le rôle depuis des années de bureau de change hein, où les services publics se vendaient au rabais au privé.
Et tout de suite, on va passer au Liban et à une révolte qui est un poil encore plus complexe, puisque le Liban, ça reste une poudrière.
Le Liban, c'est complexe, évidemment. Alors, ça fait 4 jours hein, qu'il y a un mouvement au Liban d'une ampleur relativement inédite. Et le caractère relativement inédit et exceptionnel de cette contestation, c'est que ce mouvement est interconfessionnel. Alors, pourquoi au Liban, ça prend une ampleur un peu différente qu'ailleurs ? On n'est pas dans le cadre d'un mouvement spécifiquement sunnite ou chiite, contrairement à ce qui peut se passer d'habitude. Il faut savoir que le Liban est composé d'une dizaine de communautés religieuses et que les tensions interconfessionnelles ont marqué l'histoire récente hein, du Liban contemporain. La confession majoritaire est représentée par les chiites, suivie de près par les sunnites, donc qui sont deux branches de l'islam, mais également par les maronites, qui sont des chrétiens d'Orient. On y trouve également une importante communauté druze, qui sont également des chrétiens, des alaouites, une branche du chiisme, des grecs orthodoxes, des protestants, des coptes, etc. Le système politique est d'ailleurs lui-même divisé puisque le président doit être soit chiite, soit maronite, le premier ministre doit être sunnite et ainsi de suite. Le Liban est d'ailleurs est également une terre d'accueil pour les réfugiés palestiniens, d'accueil avec des guillemets. Hein. Depuis la Nakba de 1948, on est aujourd'hui à 455 000 réfugiés palestiniens dans les camps au Liban. La langue majoritaire est l'arabe et la langue secondaire n'est autre que le français. Eh oui, le Liban a été mis sous mandat français à la fin de la Première Guerre mondiale. Et a toujours gardé des liens privilégiés avec la France. Alors comprenez par liens privilégiés hein, un rapport impérialiste de la part de la France, bien sûr. Je vous le disais, les tensions au Liban sont très fréquentes. Israël y est intervenu militairement plusieurs fois ces dernières décennies, a parfois utilisé des milices chrétiennes pour aller massacrer des Palestiniens dans des camps comme à Sabra et Shatila en 82, ce qui a favorisé l'émergence du Hezbollah, vous avez dû en entendre parler, un parti armé chiite, fondamentaliste, puisque les chiites sont majoritaires dans le sud du Liban, et c'est là que les attaques d'Israël ont eu lieu. Depuis 2011, l'afflux de réfugiés en majorité sunnites venus de Syrie est venu alimenter des conflits armés très importants entre, par exemple, sunnites et alaouites libanais. Bref, je vous passe les détails d'une histoire longue et très complexe et très multiconfessionnelle sur fond d'impérialisme occidental et en particulier d'impérialisme de l'État d'Israël. Ce qui est à retenir, c'est que depuis 4 jours, c'est tout le Liban qui se soulève. De Beyrouth à la ville à majorité sunnite de Tripoli dans le nord, des localités chiites du sud aux villes druzes ou chrétiennes de l'Est, les Libanais sortent et défient le pouvoir. Ce mouvement a démarré de manière spontanée, jeudi, après l'annonce d'une nouvelle taxe via un certain réseau qui s'appelle WhatsApp. Mesure aussitôt annulée sous la pression de la rue. Mais les Libanais veulent changer le système politique particulièrement corrompu, plombé par de multiples affaires. La classe politique est la même depuis des décennies. Le Premier ministre actuel n'est autre que Saad Hariri, un homme d'affaires, pour la troisième fois Premier ministre depuis 2009, fils de Rafik Hariri, lui aussi homme d'affaires et chef du gouvernement dans les années 90 et ce jusqu'à 2004, un grand ami d'un certain Jacques Chirac, qui a été assassiné en 2005, a priori par les services secrets syriens. Donc tout ce petit monde est au pouvoir depuis déjà plusieurs décennies. Michel Aoun, président de la République depuis 2016, est aujourd'hui allié du Hezbollah, donc un président chiite, et l'ancien chef des forces armées libanaises dans les années 80, puis il part en exil en France dans les années 90 et revient en force au début des années 2000. Bref. La caste politique au pouvoir reste la même, quelles que soient les élections. En parallèle, les infrastructures du pays sont en totale déliquescence. Les services publics sont de moins en moins accessibles, hein, notamment l'accès aux soins, à l'éducation, mais également les infrastructures liées au transport. La pauvreté explose, conséquence de la crise depuis 2008, couplée à la corruption généralisée à tous les échelons de la classe politique. Depuis 4 jours donc, la foule scande des slogans de type « révolution, révolution ». Le peuple veut la chute du régime ou encore, dans certaines villes, il y a une reprise des slogans du printemps arabe de 2011. Des affrontements violents ont eu lieu vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi. Ce dimanche a été plus calme, plus familial. Le parti chrétien des forces libanaises, allié de Saad Hariri, donc le Premier ministre, a annoncé samedi la démission de ses quatre ministres du gouvernement. Hariri est donc sur la sellette. Il propose d'ores et déjà une série de réformes visant à ne plus imposer de nouveaux impôts donc qui taxent les plus pauvres et la majorité de la population, ni des programmes de privatisation, hein, puisque évidemment ce gouvernement, comme les précédents au Liban, applique les yeux fermés les politiques d'ajustement du Fonds monétaire international. Donc on va suivre de près ce mouvement, comme les autres, hein, qui n'est pas sans rappeler celui de 2005 au Liban, qui avait mis fin à pas moins de 29 ans de tutelle syrienne sur le pays.
On va passer maintenant à la Catalogne, un autre foyer de révolte.
Et oui, la Catalogne est le théâtre d'une mobilisation, alors pas inédite hein, pour la Catalogne, mais massive, hein, depuis la semaine dernière. Suite à l'annonce de lourdes condamnations contre 9 leaders indépendantistes lundi dernier. En gros, ce sont des peines allant de 9 à 13 ans de prison pour le chef d'inculpation de sédition qu'a prononcé la Cour suprême espagnole contre les principaux leaders indépendantistes. Or, la mobilisation elle, s'est rapidement organisée en réaction avec un appel à la grève générale vendredi dernier. On a pu voir à peu près 500 000 personnes qui ont manifesté dans les rues de Barcelone après avoir rejoint la ville au travers de longues marches qui ont occupé la plupart des axes autoroutiers. Ainsi, la Catalogne, en une journée, donc, a été touchée par une grève générale. Des axes routiers et les aéroports ont été bloqués et plusieurs villes occupées. Mais rapidement, en fin de journée, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Mossos d'Esquadra, donc les CRS espagnols, ont attaqué les manifestants, mais ce qui est devenu une habitude là-bas. Et ils ont dû faire face en fait, à un flot de manifestants quand même relativement déterminés à ne plus se laisser faire après l'épisode de la violente répression qui avait eu lieu pendant le référendum pour l'indépendance de la Catalogne en 2017, hein, où on avait pu voir des flics espagnols rentrer dans les bureaux de vote pour arracher les urnes et les récupérer et pour empêcher le vote d'avoir lieu. Donc s'opposer carrément à un processus démocratique. Des barricades donc, ont été érigées dans toute la ville et les affrontements ils ont duré toute la nuit, les flics étant complètement débordés par la masse de manifestants. Alors, s'il y avait eu des barricades et des affrontements les nuits précédentes, hein, jamais ils ont été aussi importants et intenses que vendredi. Les affrontements ils ont lieu jusqu'au petit jour et le centre-ville a vite pris des aires de zone de guerre et le nombre de témoignages de touristes complètement affolés ont afflué dans les médias. Alors, si les franges non violentes du mouvement indépendantiste cherchent encore à se désolidariser des violences, il y a quand même une part non négligeable maintenant qui invoque la légitimité de l'autodéfense face à un pouvoir espagnol qui frise de plus en plus le franquisme, enfin qui renoue de plus en plus avec le franquisme, et sa police qui est presque aussi brutale que la police française. D'ailleurs, en parlant de franquisme, hein, on a pu aussi assister, comme en France pendant les Gilets jaunes, à des attaques de nationalistes espagnols, nostalgistes du franquiste, en marge des manifs, contre des manifestants, donc des agressions, des passages à tabac, etc. Et bien sûr, des séances de salut nazi. Eux aussi ont convergé en fait en Catalogne comme les soutiens des indépendantistes pour jouer les bras armés par contre du gouvernement espagnol. Alors désormais l'enjeu il dépasse quand même cette simple question indépendantiste en Catalogne évidemment. Hein. Pour les manifestants en fait il ne s'agit plus tellement de défendre l'indépendance vraiment que enfin il ne s'agit pas juste de défendre l'indépendance, ça va beaucoup plus loin maintenant, c'est défendre carrément la démocratie et la liberté civile. Face à un régime qui, à l'image des autres démocraties occidentales, devient de plus en plus autoritaire et fascisant. Et aussi, c'est en lien évidemment avec les enjeux sociaux qui restent toujours aussi forts dans une Espagne qui reste toujours victime des conséquences de la crise des subprimes.
Alors justement, déjà la semaine dernière, on vous a fait part de soulèvements en Irak, en Équateur. On aurait pu aussi vous faire part de soulèvements en Guinée. Là, on vous fait part de soulèvements au Chili, au Liban, à Barcelone. Disons qu'il y a une sorte de dynamique générale internationale.
Ouais, c'est un peu prématuré hein, pour avoir une analyse approfondie, mais on peut quand même déjà dégager des pistes d'analyse. Déjà, bon, on est clairement dans une phase internationale de révolte. Alors qui sont liés à des enjeux locaux, mais qui sont jamais totalement détachés en fait d'enjeux internationaux. En Équateur, on a vu que tout est parti d'un plan du FMI imposé à l'État équatorien, donc clairement la politique impérialiste est une manière d'imposer l'ordre néolibéral à un pays du Sud. À Hong Kong, on voit comment les enjeux aussi de pouvoir face à la puissance chinoise ont pu jouer dans les prises de position des pays occidentaux, etc., etc. Bon, clairement, on peut aussi noter que c'est une conséquence d'une crise, de la crise globale, de la gouvernance néolibérale, enfin de la crise économique, mais aussi crise des modèles démocratiques.
Disons qu'on est dans une phase de restructuration du capital et du système capitaliste, et que cette restructuration, elle passe partout. On le voit en Europe, mais on le voit aussi sur tous les autres continents. Une phase de démolition du droit du travail, du droit des travailleurs, et donc d'une offensive de la bourgeoisie radicale qui assomme les populations, qui privatise à tour de bras. Et c'est des revendications qu'on retrouve dans quasiment chacun des mouvements dont on vous a parlé cette semaine et la semaine précédente.
C'est ça, ce qu'on appelle la stratégie du choc, enfin ce que Naomi Klein appelle la stratégie du choc, c'est profiter d'une période de crise pour en fait aller encore plus en avant dans la marchandisation du vivant, de la vie, etc. Et ce qui va avec ça, c'est un renforcement autoritaire et une fascisation des États et des autres institutions capitalistes pour faire face à l'explosion des révoltes contre les inégalités.
D'ailleurs, on voit bien que là, dans toutes les répressions, en tout cas au moins en Catalogne et au Chili, la répression, elle remobilise justement des signes de gouvernement ultra-autoritaire. Quoi. Ça, c'est des références à Pinochet, des références aux franquistes. Et tu as toujours évidemment toute une symbolique qui est mobilisée aussi et qui pose clairement des orientations politiques assez nettes.
Un point positif quand même qu'on peut clairement dégager, c'est qu'il y a une dynamique qui est super intéressante. Et on voit qu'on a un abandon, alors c'est plus marqué je trouve pour moi dans les pays occidentaux, parce que c'est là où c'était le plus fort, des cadres contraignant de cette espèce de non-violence dogmatique là, qui visait à séduire les médias et à rester dans un cadre bien fermé. Et on voit clairement que le rapport à la violence est complètement reposé et que les gens sont prêts à se défendre et à considérer que la violence est légitime face à l'État, en fait.
Face à la violence de la bourgeoisie. Justement, en référence à ce qui se passe à Barcelone...
En référence à ce qui se passe en Barcelone, on va vous passer un petit morceau qui s'appelle L'Escata, un chant antifasciste catalan très réputé et qui est aussi l'hymne des indépendantistes catalans.
La visiteta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfensar, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben porcada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cas. Si estirem tots,
les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La bicisetja no diu res, mal vent que se va emportar. Et qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cap de sisets, lo darrer que em va ensenyar. Si es tira tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si tu les tires fort per aquí i jo les tiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar.
Et c'était l'Escata, chant catalan.
Toute récente.
La version la plus récente qui soit. Alors maintenant, on va passer au national. On parlait de régression sociale à l'échelle internationale. Maintenant, on va parler de régression sociale à l'échelle nationale et de leurs conséquences, hein, la mise en danger de la vie des personnes.
Voilà, alors on va parler un peu de ces gros enfoirés du gouvernement, hein, de la direction de la SNCF et des médias qui ont raconté n'importe quoi sur le droit de retrait, ce droit syndical dans la fonction publique. Alors, tout commence vendredi 18 octobre. Les cheminots ont fait valoir leur droit de retrait suite à un accident survenu mercredi après-midi en Champagne-Ardenne sur un passage à niveau où un engin agricole a percuté un train. Le conducteur, qui était le seul agent de la SNCF à bord du train, blessé à la cheville, a essayé d'éviter un suraccident. Sauf que la radio permettant de lancer l'alerte a été endommagée par la collision. Il est donc remonté en boitant tout seul le long de la voie en sens inverse pour prévenir un autre train qui arrivait, en laissant au passage seuls les passagers dans le train, dont 18 personnes légèrement blessées et probablement un peu choquées. Les cheminots ont ainsi utilisé leur droit de retrait, c'est-à-dire la possibilité de se retirer d'une situation de travail si il y a un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail donc présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. La loi précise, je continue à citer, qu'aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé. Bon, les syndicats ont d'ailleurs précisé à la suite que l'exercice de leur droit de retrait a été validé par l'inspection du travail. Jusque-là, on se dit, tout va bien, tout est normal. Où est le problème ? Alors pourquoi la direction de la SNCF et le gouvernement, relayés par les chiens de garde que sont les médias de masse, ont-ils parlé de grève sauvage ? Pourquoi, dans les gares SNCF, sur les panneaux, l'on pouvait lire « grève inopinée » ou « grève surprise » ? Pourquoi Édouard Philippe a-t-il officiellement réclamé des sanctions judiciaires ? Pourquoi les médias ont tout fait pour faire passer ce droit de retrait pour une grève ? Et pourquoi les médias, toujours, ont-ils lourdement insisté sur le fait que ce mouvement n'aurait pas dû avoir d'impact national, mais seulement localisé en Champagne-Ardenne ? Eh bien parce qu'ils sont tous dans le même camp. c'est-à-dire le camp du patronat, de la bourgeoisie, ceux qui dilapident la SNCF au privé, qui suppriment des postes massivement et qui suppriment le statut des cheminots. Alors c'est vrai quoi, un conducteur seul dans un train qui subit un accident dont il n'est pas le responsable, qui doit prendre des risques pour prévenir un train en face et abandonner les passagers, choqués, blessés, dans le doute, bah, c'est pas bien grave au regard des profits futurs et faramineux de la SNCF. Autant raconter n'importe quoi sur le droit de retrait, au mépris du droit du travail, qu'ils essayent tant de détruire, mais dont il reste, malheureusement pour eux encore, un certain nombre de victoires ouvrières qu'il va falloir défendre bec et ongles dans les mois et les années à venir.
Et voilà, et vu qu'aujourd'hui on est d'humeur musicale, on va vous remettre une petite chanson en hommage à nos cheminots, c'est Petit Cheminot de la chanson du dimanche.
Dimanche, on pêche. 1, 2, 3, 4. J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le train.
Non,
c'est pas possible.
Pourquoi?
J'arrive à Paris à l'aéroport. Je prends le bus.
Non,
c'est pas possible.
Pourquoi?
Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quoi la grève?
Hey.
Petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi.
Hey.
Petit cheminot, I love you. Petit cheminot, I need you. Petit cheminot, ne me laisse pas. Chante avec moi.
La 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 la.
Chaff, chaff.
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 Encore. La 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 la.
Chaff, chaff.
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 Hey.
J'arrive à Paris, place de l'Opéra.
Hey.
Je prends le taxi.
Oh non.
C'est pas possible.
Y'en a plus.
J'arrive à Paris, place de l'Opéra.
Hey.
Je prends le Vélib.
Non.
C'est pas possible.
Y'en a plus.
Tout le monde me dit aujourd'hui c'est la grève. C'est quand la grève?
Hey.
Petit cheminot, où es-tu? Petit cheminot, que fais-tu? Petit cheminot, pense à moi. Besoin de toi.
Hey.
Petit cheminot, I love you. Petit cheminot, I need you. Petit cheminot, ne me laisse pas. Chante avec moi.
La 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 la.
Chaff, chaff.
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 Je veux à la poste.
Pas possible.
Je veux qu'un postal.
Pas possible.
Je veux l'infirmière.
Pas possible.
Je veux fonctionnaire.
Pas possible.
Je veux professeur.
Pas possible.
Je veux camionneur.
Pas possible.
Je veux l'éclusier.
Pas possible.
Je veux la brute.
Ça c'est possible.
La non à la grève.
En France.
La non à la grève.
En France.
La non à la grève.
C'est l'épidémie.
La non à la grève.
Sauf le jus.
La non à la grève.
Tchouf.
La non à la grève.
C'est l'épidémie
en France.
La non à la grève.
Attention.
La non à la grève.
À dimanche prochain.
La non à la grève.
Soignez-vous bien.
La non à la grève.
Je rentre en Angleterre.
La non à la grève.
Alors, vous êtes toujours sur Radio Canu. Ce qui est sûr, c'est qu'au niveau national, l'État n'a jamais exercé son droit de retrait de sa dynamique homophobe et islamophobe.
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 Mais les deux, ça marche. Hein. Les deux, ça, c'est une bonne. Bien joué.
Ah, on a un fou rire. Alors, l'État souhaite porter plainte pour diffamation contre un habitant de la Drôme qui a dénoncé sur Facebook le climat raciste et islamophobe se développant en France depuis l'attaque de la préfecture de Paris début octobre. En effet, le 14 octobre dernier, Hakim Mahdi, un homme engagé dans la vie politique et associative de Valence, a critiqué vertement sur la page Facebook de la députée macroniste Mireille Clapeau le concept de société de vigilance que Macron a défendu récemment.
Tu en as parlé la semaine dernière d'ailleurs.
Dont on a parlé la semaine dernière. Alors juste pour rappel, hein, ça vise à... Enfin pour lui, ça vise à savoir repérer les petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République au quotidien. Alors, comme on vous l'expliquait, donc, c'est la semaine dernière, c'est ce qu'on nous vend Macron, c'est une société fasciste de contrôle de la population et de persécution des musulmans. Donc, Hakim Mahdi, dans ce message sur Facebook, où il interpelle l'élu, il explique, et je le cite, qu'il fait cela pour que vous ne puissiez pas dire, que vous ne saviez pas, que votre France suit les pas de celle de Vichy. Et il a conclu ensuite en disant « Choisissez le bon camp de l'histoire de France, notre pays est en train de filer tout droit vers l'abîme, vers l'innommable, vers l'apartheid. » Alors, après ce message, cet administré, il a échangé avec la députée par Facebook, par voie interposée, etc. et continué de livrer de son point de vue sur la politique du gouvernement, hein, comme il est légitime de le faire. Alors pour lui, hein, le président et son clan de ministres livrent une bataille haineuse envers une frange de la population, on va pas le contredire franchement, et entretiennent un climat islamophobe et raciste. Alors en réaction, et sûrement parce que la députée elle a tout cafeté au préfet, le préfet de la Drôme a décidé de saisir le procureur de la République car ces faits relèveraient selon lui du délit de diffamation publique à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. Alors, de manière hypocrite, hein, et très orwellienne d'une certaine manière, en inversant les responsabilités, le préfet Hugues Moutou estime que ses propos inacceptables conduisent à dresser les Français les uns contre les autres et à créer dans notre pays un climat dangereux de haine et de violence.
Bien vu.
Ouais, gros foutage de gueule. Alors pourtant, hein, ce même préfet nous fait ici, en s'attaquant à la liberté d'expression de quelqu'un et son droit à la critique de l'État, une démonstration de magistrale de la fascisation rampante de cet État qui est de plus en plus enclin à supprimer toute critique et volonté de contestation. D'ailleurs, pour ceux qui considèrent que, et on peut voir ça ces derniers temps avec les mobilisations naissantes contre l'islamophobie, donc pour tous ceux qui considèrent que l'islamophobie n'est pas un vrai racisme ou alors serait un simple moyen de créer une diversion, et là je parle parmi nos alliés, hein, qu'ils soient gilets jaunes, syndicalistes, etc., cet événement devrait nous alerter vraiment sur le rôle réel de l'islamophobie et aussi sur les retombées collectives, hein, qui nous attendent tous avec ce développement de ce climat de vindicte à l'égard des musulmans.
On enchaîne avec une petite brève qui n'a pas été annoncée au départ, oui, mais qui est nonobstant très intéressante.
Et qui échappe à l'hypervigilance, parce que de la vigilance à la censure, il n'y a qu'un pas, et cette fois c'est Facebook qui est en cause. C'est Facebook, notre cher ami, par lesquels on se fait d'autres amis, après avoir déjà attaqué il y a quelques mois plusieurs pages autour de la critique sociale. Il y avait Cerveau Néon Disponible, il y avait Nantes Révoltée, il y en avait d'autres, il y avait des groupes de gilets jaunes, tout ça c'était
plein d'amis,
avant le
geste. Quoi ? Plein d'amis quoi.
Bah eux c'est plutôt des amis quand même. Bref, ils ont vu leur publication divisée par 100 juste avant, comme par hasard, le GZ à Biarritz. Lien de causalité, on peut le supposer sans prendre trop de risques. Et cette fois-ci, cette censure politique de Facebook s'est étendue à d'autres acteurs et à la page de Sudrail. Alors c'est évidemment c'est lié au contexte, et eux aussi ils ont vu la limitation de leur publication et de leur visibilité clairement baisser drastiquement, et tout ça pose encore la question de nos moyens de diffusion, desquels on veut se doter, comment on peut les contrôler, et surtout quelles conséquences ça peut avoir quand ceux qu'on utilise appartiennent clairement à l'ennemi et n'ont pas les mêmes intérêts politiques que les nôtres.
On enchaîne avec un sujet, un triste sujet au local, tristement lyonnais, on va dire, une nouvelle attaque fasciste.
Oui, une des plus tragiques traditions lyonnaises qui, une fois de plus, s'est répétée, dont ce week-end, à partir de ce dimanche 20 octobre vers 14h, un petit groupe de fascistes est parvenu à pénétrer dans l'immeuble où se trouve le local de l'Union syndicale suédoise Rhône. Ils ont réussi à tirer vers eux un camarade qui se tenait à la porte pour le jeter dans les escaliers et le rouer de coups avant de détaler lors de l'intervention d'autres camarades de Solidaires étudiants alors en formation syndicale au local. L'Union syndicale solidaire Rhône et solidaire étudiant Lyon apportent tout leur soutien aux camarades victimes de cette attaque. Elles l'ont accompagné pour déposer plainte et l'Union syndicale solidaire Rhône portera également plainte. Cette lâche attaque n'est hélas pas une première à Lyon. Plusieurs locaux militants ont été la cible des fascistes, ceux de la CGT, de la CNT, du Parti communiste, la librairie La Plume Noire ou Radio Canu. On dénombre encore de trop nombreuses agressions par des fascistes à l'encontre de personnes parce que jugées non blanches, étrangères, lesbiennes, homosexuelles, trans, militantes. Il est hors de question que les fascistes tentent de faire régner la peur alors qu'un mouvement social d'ampleur se construit. nous constatons que les groupes fascistes lyonnais dissous se reconstituent, qu'ils disposent toujours de locaux malgré les interdictions. C'est inacceptable, tout comme il est inacceptable de voir des médias, des élus, des partis, voire des membres du gouvernement attiser la haine, la xénophobie, le racisme et l'islamophobie.
Et dans le même temps...
On peut préciser que c'était un communiqué de Solidaires. Solidaires étudiants. Voilà.
Ok. Et dans le même temps, hein, parce qu'ils ont été assez prolifiques ce week-end, nos chers fascistes lyonnais.
Ils sont pas nos amis, on le précise.
Non, bien sûr.
Il y a plus d'amis ici.
Ah, il comprend rien celui-là.
Ah, oui. Oui, donc en fait, parce qu'on a découvert ce lundi matin dans le premier arrondissement sur une plaque commémorative de la Shoah les noms barrés de plusieurs déportés juifs. Hein, qui avait été raflé par la Gestapo le 9 février 1943. On pouvait aussi voir au même endroit des croix gammées, des symboles SS, des croix celtiques et d'autres symboles fasciques, ce qui sont devenus vraiment trop habituels dans nos rues lyonnaises. En avril dernier, on avait déjà eu un événement similaire, hein, avec des croix gammées et des tags racistes non loin du centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Et bien sûr, on voit encore une conséquence du développement de l'extrême droite à Lyon et d'une extrême droite antisémite, même si elle ne l'assume pas publiquement. Mais quand on est de sortie, un peu bourré, et puis qu'on veut s'amuser, entre fachos lyonnais, on s'amuse à dégrader des monuments en commémoration de la Shoah.
Et bien sûr, on rappelle que ce ne sont pas les interdictions ou les dissolutions ministérielles qui empêchent ces groupes de continuer à exercer leur violence antisémite, homophobe, racistes, etc., puisque le bastion social qui a été, on l'a expliqué déjà il y a 15 jours, dissous il y a quelques mois par le gouvernement, et bien s'est reconstitué dans toutes les villes où il était présent, et à Lyon, ce groupe s'appelle Audace Lyon. On ne sait pas évidemment si c'est ce groupe-là qui a attaqué le camarade syndicaliste de Solidaires, mais en tout cas, c'est à nous, dans la rue et par nos activités politiques, de détruire ces groupuscules fascistes et néofascistes, et non pas, en tout cas, en quémandant au gouvernement quelques dissolutions que ce soit, puisqu'ils se reconstituent systématiquement. À part les désorganiser un petit peu, ça ne change pas grand-chose au fond du problème. Et on enchaîne ce point avec un mauvais anniversaire peut-être sur quelque chose qui s'est passé, qui a innové à Lyon en 2010.
Alors, on va pas refaire l'histoire, c'est 9 ans maintenant de ce drame qui a eu lieu donc le 21 octobre 2010 et dont nous commémorons le 9e anniversaire. Donc pour rappeler quand même rapidement, pour ceux qui n'étaient pas présents, ce que je vous souhaite, mais le 21 octobre, en plein mois un des mouvements des retraites, le mouvement à Lyon était quand même assez vivant, où il y avait aussi extrêmement violent avec régulièrement des affrontements avec les forces de l'ordre, et pour casser le mouvement social, en fait, les forces de l'ordre ont décidé d'expérimenter une technique qui nous venait à l'époque d'Angleterre, qu'on appelait le catling, et qui est en fait la technique en fait de la... On traduit littéralement par bouloir, mais qu'on a après appelé la technique de la nasse en fait en France, où en lien en plus avec une partie, en fait la manifestation devait avoir lieu à Bellecour comme d'habitude, et la veille au soir, la préfecture avait demandé au syndicat de la déplacer sur la petite place juste à côté de la place Antonin-Poncé, et donc évidemment absolument personne n'était au courant, donc l'ensemble des manifestants et militants s'étaient réunis sur la place Bellecour, sauf que fort de leur bon droit, et la préfecture a décidé considérer ces personnes-là comme des potentiels casseurs et a enfermé l'ensemble des personnes présentes sur la place Bellecour à partir de la fin de la matinée jusqu'à plus de 21h, 22h. Et donc, en fait, nous étions restés plusieurs centaines sur place sans pouvoir sortir pendant toute une journée et sans aucune raison valable en fait donnée par qui que ce soit. Donc c'est constitué le premier exemple d'une garde à vue à ciel ouvert géant, une sorte de camp d'internement pendant toute la journée où on attendait patiemment, où régulièrement les forces de l'ordre qui s'ennuyaient tiraient avec leurs balles en caoutchouc et leurs canons à eau pour à chaque fois que nous faisions un pas, ou les contrôleurs TCL à chaque fois que les personnes essayaient de se réfugier près des grilles des stations, lever les grilles, les attraper par les pieds, les tabasser avec les forces de l'ordre de l'intérieur du métro. Et voilà, donc c'est ce magnifique anniversaire de cet événement que nous fêtons, et notamment de la procédure judiciaire en fait, parce que quand même un grand nombre de collectifs, d'associations et de militants se sont constitués en collectif pour en tout cas continuer à porter la voix et éviter cet événement de s'oubli, et ont essayé de mettre en place une procédure judiciaire pour au moins que le soit reconnue la responsabilité des personnes qui avaient décidé de ces actions. Le truc, c'est que évidemment, le pouvoir et la justice protègent les puissants, et que ça fait 9 ans et que il s'est pas, au final, pas passé grand chose pour être totalement honnête, même si malgré les nombreux efforts du collectif, on continue dans les procédures qui avancent pas, parce qu'on a dû attendre officieusement, ça nous a été gentiment expliqué, que les grands responsables judiciaires, policiers plutôt, soient partis à la retraite ou soient quittés de Lyon, parce que la justice ne voulait pas s'attaquer à la police en place, et que donc 9 ans après, on commence enfin à avoir des premières décisions de justice, on fait venir des personnes à qui on demande de s'expliquer sur cette affaire, qui commence petit à petit quand même, et là ça disparaît des mémoires collectives.
Bon, on arrive tranquillement sur cette fin d'émission, on avance pour une fois, ça permettra à notre camarade de Blasphème FM, de l'émission à 20h de commencer pile à l'heure. J'en profite puisqu'on a le temps pour faire une petite dédicace à des camarades rennais qui nous écoutent régulièrement, voilà, ça fait plaisir. Et
Un petit agenda,
bah oui, on allait l'oublier.
Ça pourrait être quand même pas mal.
C'est vrai.
Pour une fois qu'on a le temps et qu'on va pas le zapper, on va quand même en profiter. Dans la semaine qui arrive, à partir de demain, en fait, il y aura 3 dates différentes qui sont posées. Donc la première, le demain, la prochaine, c'est le 12 novembre, et une autre, le mercredi 27 novembre. À chaque fois, à la Bourse du Travail, aura lieu en fait une formation débat sur la réforme des retraites. Donc je vous invite tous et toutes à y aller, parce que ça peut être extrêmement intéressant. En fait, sous les principes de l'éducation populaire, c'est de se former, de s'auto-former pour essayer de décrypter cette réforme qui nous arrive en pleine figure, et de se réunir pour commencer à lutter contre elle.
Attends, c'est quand ça ?
C'est demain soir, le mardi 22 octobre, le 12 novembre et le 27 novembre, à chaque fois à 19h30 à la Bourse du Travail. Et c'est organisé par un collectif citoyen contre les retraites, enfin contre la réforme des retraites. Et je n'y ai pas, évidemment pas encore assisté, mais ça a l'air extrêmement intéressant. Sinon, mercredi, il y a une rencontre transatlantique autour de l'actualité de la pensée libertaire à la librairie La Griffe, où des auteurs français et des auteurs québécois vont venir discuter de l'actualité de cet univers qui est l'univers des anarchistes et de l'ensemble de la pensée libertaire, et faire un état des lieux, et puis voir parler des suites possibles et des liens qu'on peut avoir avec nos camarades. Et samedi, je pense qu'on peut, il y aura plusieurs manifestations, donc si vous pouvez peut-être revenir dessus.
Il y aura a priori une manifestation en solidarité avec les Kurdes, comme la semaine dernière et comme le samedi précédent. Donc venez-y nombreux pour soutenir les camarades kurdes et continuer à essayer de faire pression contre l'intervention turque d'Erdogan au Rojava. Ce serait 15h30, place Bellecour.
Et que je rejoins, j'imagine, par l'habituelle manifestation des Gilets jaunes qui va bientôt fêter ses 1 an. Et dimanche, si le temps est aussi pourri qu'aujourd'hui, et dans tous les cas, je vous y invite à rejoindre le jusqu'ici, où se déroule de façon régulière un set de lecture du Capital de Karl Marx qui s'annonce extrêmement intéressant, parce que ça fait toujours du bien de revoir ses bases. Et ça sera bien, parce qu'après le lendemain, nous espérons vous retrouver tous et toutes à notre écoute en fait, du prochain Canu Info du lundi. Et pour nous, il est 19h49 et on va vous souhaiter une très très belle semaine. Et puis une bonne soirée, à bientôt.
Bonne soirée.
Bonne soirée.